Bonjour François Hollande.
Bonjour.
Nous allons aujourd'hui parler de votre dernier ouvrage, le cinquième, depuis que vous avez quitté l'Élysée, sans compter les livres de jeunesse. Il s'appelle « Le défi de gouverner, la gauche et le pouvoir, de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours » et c'est publié aux éditions Perrin. À l'origine, ce livre vous a été proposé par le directeur des éditions Perrin dans le cadre de l'anniversaire du cartel des gauches, cette coalition électorale qui a vu le jour en mai 1924 pour défaire la droite du Bloc national. Mais cet ouvrage est devenu, peu à peu, par la suite, un manuel d'histoire politique plus complet, une véritable apologie de la social-démocratie. Partant de 1894, avec le début de l'affaire Dreyfus jusqu'en 2017 et la fin de votre quinquennat, vous vous êtes intéressé aux questions de la gauche et du pouvoir, et surtout de la gauche au pouvoir. Finalement, la thèse de ce livre se retrouve résumée dans cette question : que serait la France aujourd'hui si la gauche n'avait jamais eu le courage de gouverner ? Je vais vous citer, au début de votre ouvrage, vous écrivez ceci : j'estime qu'il est de mon devoir de raconter la riche histoire de la gauche au pouvoir. Il s'agit pour moi de montrer combien elle a changé la France en la rendant plus juste, plus libre et plus robuste et comment elle a succombé à ses propres démons, bien plus qu'elle n'a été vaincue par ses adversaires. La gauche, en effet, est tourmentée depuis les origines par les mêmes interrogations. La première est celle de son rapport au pouvoir. Pourquoi, François Hollande, le pouvoir fait-il aussi peur à la gauche ?
Le pouvoir attire la gauche parce qu'elle a une vocation qui est de changer la vie et de transformer l'économie et de porter un message universel, y compris au monde. Et en même temps qu'il est attiré, elle est attirée par le pouvoir, elle est aussi inquiète de ce que pourrait être son arrivée au pouvoir et surtout l'exercice de la responsabilité. Et c'est pour ça qu'elle hésite toujours. Elle est souvent dans la radicalité, dans l'opposition, et est obligée d'être plutôt dans le réalisme une fois arrivée au sommet de l'État. Et c'est ce rapport compliqué, ce rapport ambigu, être aimanté par le pouvoir et en même temps être terrifié par ce qu'il représente, avec toujours l'interrogation de la trahison possible, de la suspicion de ne pas être à la hauteur des promesses, et donc la hantise de la déception. C'est ça que j'essaye de montrer dès le départ, c'est-à-dire au moment où l'affaire Dreyfus éclate et où les socialistes de l'époque se posent la question, est-ce qu'on doit laisser un officier juif être condamné alors qu'il est innocent ? Mais parce que ce n'est pas le combat principal. Le combat principal, c'est le prolétariat, c'est la condition ouvrière. Ou est-ce que, au contraire, parce que nous sommes des républicains, des universalistes, des femmes et des hommes attachés aux libertés, nous devons défendre cet officier juif et accepter même qu'un des nôtres, un socialiste, arrive au gouvernement. Ce sera la première fois qu'un socialiste, dans le gouvernement de Valdecrousseau, 1899, siégera à la table du Conseil des ministres. Et si on regarde l'histoire, elle s'est toujours reproduite ainsi. Le cartel des gauches, puisque c'était le centenaire cette année, les socialistes ont rompu avec les communistes, c'était le congrès de Tours. 4 ans plus tard, ils peuvent être associés au pouvoir, les radicaux leur demandent de participer avec eux au gouvernement de la France, et les socialistes se mettent de côté, soutiennent sans participer. Puis 1936, le Front populaire, là ils n'ont pas de possibilité de récuser le pouvoir puisqu'ils l'ont sollicité. Léon Blum pensait jamais être appelé à diriger le gouvernement, il pensait que ce seraient les radicaux qui seraient les plus nombreux. Là il y est contraint et ça lui donne une responsabilité, il évoque même un calice qu'il serait obligé d'avaler pour aller au pouvoir. Ben oui, il faut y aller, et après donc c'est de grandes conquêtes, mais aussi le risque de la déception. Et si on va plus vite encore pour la Ve République, François Mitterrand, lui, il veut le pouvoir, il ne se pose pas la question. Il sait que c'est le pouvoir qui va permettre de pouvoir faire avancer un certain nombre de réformes. Mais comme il va rester longtemps au pouvoir, il va y avoir des pauses, des revirements, une politique de rigueur, des parenthèses à ouvrir. Et Jospin, qui plus tard devient Premier ministre, il ne récuse pas le pouvoir, il est en cohabitation, mais lui aussi va réussir à faire voter des lois très importantes, des 35 heures, les emplois jeunes, et réussir économiquement, mais la gauche va se diviser et lui-même va pas forcément être reconnu pour sans doute le meilleur chef de gouvernement de la Ve République. Moi-même, je viens comme deuxième président de la République socialiste de la cinquième, et pourtant, il y aura des frondeurs, il y aura une gauche radicale qui considérera que nous n'allons pas assez loin, que nous ne rompons pas avec la mondialisation, avec l'Europe. Parce que le fil directeur de tout ça, c'est le rapport compliqué de la gauche au pouvoir, mais la division de la gauche entre une gauche radicale, intransigeante, insurrectionnelle, on voit ce qu'elle peut être aujourd'hui, et une gauche réformiste. Et la gauche, pour gagner, a besoin de l'union, mais quand elle gouverne, elle se divise.
Justement, dans ce livre, Le défi de gouverner, vous rappelez bien, comme vous le disiez, qu'il y a toujours eu deux gauches en France, une dans la contestation, dans l'opposition, dans la protestation, foncièrement dogmatique, tout le programme, rien que le programme, ça vous parle, je n'en doute pas, et une autre gauche réformiste, désireuse de gouverner, donc prête à accepter les contraintes du réel, quitte à oublier ses propres valeurs, et qui par là même se prend les foudres de la première. C'est cette gauche-là, la seconde, qui a, selon vous, permis le cartel des gauches de 24, le Front Populaire de 36, la Libération, l'émergence de personnages comme Jean Jaurès, Léon Blum, Pierre Mendès-France ou encore François Mitterrand. Et c'est de cette gauche-là que vous parlez dans ce livre, de la gauche, selon la classification de l'historien Michel Vinocq, de la gauche républicaine ou socialiste, en somme, de la gauche du compromis. Expliquez-nous la différence entre le compromis et la compromission. Et dites-nous si votre famille politique n'a jamais basculé de l'un à l'autre.
Le compromis est lié à l'exercice même du pouvoir. Non pas qu'il s'agirait d'abandonner les promesses qui ont été faites. Là, il s'agirait à ce moment-là d'une compromission, d'avoir promis en sachant qu'on ne pourrait pas tenir. Non, il s'agit de l'espérance qui est portée par un gouvernement de gauche et la confrontation avec la réalité. C'est quoi la réalité? C'est quand il y a une crise économique, de ne pas céder la place et de la regarder en face et de la juguler. Ce qu'a fait François Mitterrand dans les années 80, ce que Lionel Jospin a pu faire à son tour, ce que j'ai fait lorsqu'il y a eu la crise de la zone euro, la crise de la Grèce, le Portugal n'était pas loin non plus de la faillite, donc et la France pouvait être touchée aussi. Donc là, il s'agit de s'affronter à la réalité. Donc le compromis, c'est un moment d'aller un peu moins vite ou de prendre des mesures qui font pour les entreprises des soutiens que une partie de notre électorat ne pouvait pas forcément imaginer, parce qu'il faut les sauver. Et c'est aussi le compromis lorsque il y a des impératifs budgétaires qui justifient qu'on ne mette pas les pays que l'on dirige en faillite. La compromission, donc, c'est le mensonge, en réalité. C'est-à-dire, et c'est aussi une tendance dans la gauche, y compris et surtout d'ailleurs dans la gauche radicale. On promet en sachant que de toute façon on ne viendra jamais au pouvoir, et si on y vient, qu'on sera amené à céder la place assez rapidement ou à faire une politique de gestion du capitalisme. Ça a été dans l'histoire de la gauche à un moment le gouvernement Guy Mollet qui a été accusé de compromission, y compris sur les affaires coloniales. Donc voilà pourquoi nous devons admettre le compromis comme mode d'exercice du pouvoir et récuser le mensonge, l'illusion, l'incantation qui vient souvent de la gauche radicale.
Mais donc, votre famille politique, vous estimez qu'elle n'a jamais basculé de l'un à l'autre, du compromis à la compromission?
Si, il y a pu y avoir, sous Guy Mollet, donc 1956, quand Guy Mollet, avec Pierre Mendès-France, se fait élire sur la base du refus de la guerre en Algérie, et envoie le contingent quelques semaines plus tard. Ça a été pour le mouvement socialiste français une accusation qui a longtemps porté, et qui a d'ailleurs justifié des scissions. Il y a eu aussi des manquements lorsque la raison d'État peut exiger de ne pas respecter les principes et les valeurs fondamentales. Ça a pu arriver. Il peut y avoir une compromission lorsque, pour avoir des suffrages, nous cherchons à mettre en cause ce qui est le patrimoine commun de la gauche. Ça peut arriver sur les libertés fondamentales. Et d'ailleurs, quand j'ai lutté contre le terrorisme pendant la période donc, de 2012 à 2017, c'était ce qui parfois pouvait nous être reproché. Par exemple, sur la déchéance de nationalité, est-ce que c'était pas une compromission? Et ça l'était, d'une certaine façon, à l'égard de la droite qui voulait avoir une mesure symbolique. Donc oui, on est toujours dans un moment où on doit admettre le compromis, mais ne pas basculer dans la compromission.
Dans votre livre, Le défi de gouverner, Monsieur le Président, on semble comprendre que finalement, la gauche est toujours incapable d'agir. Une fois au pouvoir, elle est sans cesse rattrapée par le réel, autrement dit les soucis pécuniaires, les déficits, les risques de décrochage de l'industrie, les obstacles de la finance, et donc elle est freinée, perpétuellement empêchée dans l'action. La gauche échoue quand elle se retrouve face au mur de l'argent, je reprends ici l'expression d'Édouard Herriot, leader du cartel des gauches en 1924, dès qu'il s'agit de casser le pouvoir des 200 familles, les 200 premiers actionnaires de la Banque de France en 36, la gauche du Front Populaire échoue. Dans le contexte d'attaque contre le franc, la gauche de Mitterrand fait le choix du libéralisme en mars 80. Le traité de Maastricht en 92 est validé en 97 par Jospin dans le cadre du traité d'Amsterdam. En janvier 2012, vous affirmiez au meeting du Bourget « Mon véritable adversaire, c'est le monde de la finance ». Or, fin 2013, main dans la main avec le président du MEDEF, Pierre Gattaz, vous mettez en place le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Autrement dit, un avantage fiscal énorme pour les entreprises qui n'a in fine pas tout à fait résolu la question du chômage. Comment concevez-vous cette fatalité de l'échec ? Pourquoi votre gauche, celle qui a accédé au pouvoir, rend-elle toujours les armes ?
Elle ne rend pas les armes, mais elle obtient des victoires avant d'être obligée quelquefois de faire une pause ou de faire un mouvement de recul ou de contournement. Prenons les exemples que vous avez cités. Le cartel des gauches a tenté de mettre en place une fiscalité plus juste pour le revenu. C'était les premiers pas de l'impôt sur le revenu. Ce fracas sur le mur de l'argent. L'expérience a été utile puisque Front Populaire, avant de décréter la pause, Léon Blum fait les congés payés, les conventions collectives, la nationalisation d'un certain nombre d'institutions. La Banque de France étant une de ces institutions, donc il y a des conquêtes, il y a des victoires. Et je parle du temps de travail. Le temps de travail, ça a toujours été pour la gauche un élément de conquête. Et depuis le Front Populaire jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours eu ce rapport au travail qui était de libérer les salariés, les prolétaires de l'exploitation dont ils étaient victimes. Si on regarde Mitterrand, avant de faire le choix que vous indiquez, qui est un choix européen, pas un choix libéral, qui est de dire, est-ce qu'on reste dans le système monétaire européen ou on s'en écarte, bah, il obtient la retraite à 60 ans, la cinquième semaine de congés payés, les 39 heures, sans compter les réformes les plus symboliques de l'abolition de la peine de mort. Mais ça, c'est encore dans un autre domaine. Ce que je veux dire, c'est que avant de faire ce mouvement de patience, il y a d'abord des acquis. Lionel Jospin, c'est la couverture maladie universelle, c'est les 35 heures, etc. Et c'est pas le traité de Maastricht qui l'en empêche. Et au contraire, même puisqu'il y aura des résultats économiques qui seront particulièrement brillants. Et moi-même, sur le crédit impôt compétitivité emploi, c'est lié au travail, hein. À la masse salariale, et ça a permis de sauver les entreprises et de réduire le chômage. D'une certaine façon, les résultats ont été couronnés d'un certain succès, puisque c'était la courbe du chômage qui s'est inversée. Donc, même s'il y a des compromis, pour reprendre votre terme, il y a des victoires qui sont obtenues et qui justifient qu'ensuite, nous ne rompions pas avec ce qui est pour les socialistes français, mais c'est vrai aussi pour le Portugal, l'attachement à l'Europe. C'est-à-dire que, est-ce qu'on fait le socialisme dans un seul pays? Est-ce qu'on se replie? Est-ce qu'on s'enferme? Est-ce qu'on fait du protectionnisme, du souverainisme, dirait-on? Ou est-ce qu'on accepte de participer avec d'autres sociodémocrates à la construction d'un ensemble politique commun? C'est ce que nous avons fait finalement historiquement. Les socialistes français ont toujours été européens.
Finalement, l'Europe est un internationalisme socialiste?
Oui, sans les résultats forcément espérés. C'est-à-dire que c'est dans le cadre d'un plus large espace que nous pouvons construire un ensemble, que nous pouvons être plus forts face à des puissances comme les États-Unis ou la Russie ou la Chine. Mais ce n'est pas le socialisme. C'est ça le problème, c'est-à-dire que les socialistes sont européens, mais les Européens ne sont pas tous socialistes, donc il y a quand même quelques difficultés. Et notre tâche, qui était d'orienter plus socialement l'Europe, n'a pas toujours été couronnée de succès.
Pensez-vous que la Ve République est une institution assez fiable pour la gauche ? La Troisième et la Quatrième République l'ont souvent meurtrie, vous le rappelez dans ce livre, Le défi de gouverner aux éditions Perrin, mais qu'en est-il donc de la Cinquième, qui a tout de même été conçue sur un principe de monarchie présidentielle et par un homme foncièrement à droite de l'échiquier politique, le général de Gaulle ? La Cinquième République n'oblige-t-elle pas la gauche, celle qui gouverne et pas celle dans l'opposition, à se compromettre quoi qu'il arrive ?
Non, je pense que la Troisième République, et fortiori la Quatrième, qui étaient des régimes parlementaires très instables, ont conduit la gauche à ne vivre le pouvoir que par expérience, que par circonstance, que par exception. Bon, on cite le cartel des gauches, c'est son centenaire, enfin ça n'a pas été une très longue expérience, quelques mois. Le Front populaire c'est un an. Et ensuite, Mendès France c'est 8 mois, 9 mois. Guy Mollet, c'est un peu plus long. Donc c'était des formes très brèves et où l'idée de la rupture pouvait être imaginée. C'est-à-dire, finalement, nous arrivions au pouvoir, et nous faisions des réformes profondes, autant qu'il était possible, avec un mouvement social dont nous espérions qu'il puisse être puissant, comme il a pu l'être au moment du Front populaire de 1936. Puis après, la gauche cédait la place. Avec la Ve République, qui est un régime très différent, c'est vrai, peu conforme a priori à nos principes de débat, de délibération et de renforcement du Parlement, c'est ce qui a permis à François Mitterrand et à moi-même d'avoir la durée pour mener en des réformes.
Oui, de passer le mur de la première année.
Oui, de l'état de grâce. C'était toujours cette idée de l'état de grâce qui durait quelques mois, et puis ensuite c'était la pause, et après c'était le repli. Là, malgré toutes les épreuves que François Mitterrand, que j'ai pu moi-même traverser, la Ve République nous a donné la stabilité et la durée. Ça, c'était très important. Et je crois encore aujourd'hui à la force de l'élection présidentielle. En France, l'élection présidentielle, peut-être à la différence du Portugal, le président de la République est élu au suffrage universel dans nos deux pays, mais en France, le président de la République a des prérogatives et des pouvoirs importants. Et c'est plus facile pour la gauche de gagner une élection présidentielle que de gagner des élections législatives sous la Ve République. Il n'y a eu qu'un cas où, dans le cadre d'une élection législative, suite à une dissolution, il y a eu une victoire, c'est celle de Lionel Jospin. Pour le reste, c'est plus difficile. Donc, en revanche, l'élection présidentielle offre la possibilité à une femme, à un homme, de rassembler des électeurs de gauche et au-delà de la gauche pour gagner et ensuite pour gouverner.
Et donc le passage à une Sixième République, le renouvellement complet de nos institutions n'est pas la condition sine qua non d'une gauche en bonne santé.
Non. Regardez, aujourd'hui, d'une certaine façon, en France, nous sommes revenus à un système de type Troisième ou Quatrième République.
Mm-hmm.
Puisque le président...
Plus parlementaire, si vous voulez dire.
Ouais, totalement parlementaire, puisque le président de la République n'a plus, au-delà de son domaine réservé, de capacité d'action, et qu'il y a un Premier ministre qui n'a pas de majorité. Est-ce que c'est ce système-là que l'on veut pour changer la France, pour faire des réformes profondes, imaginez, favorables à la gauche, je ne crois pas. Il faut avoir une majorité. C'est compliqué d'avoir une majorité absolue. Vous voyez aussi ce que ça peut donner dans beaucoup de pays autour de nous. En Allemagne, ils sont obligés de faire une coalition qui est d'ailleurs fragile. En Italie, c'est une coalition de droite et d'extrême droite. C'est toujours des coalitions. Et au Portugal, on sait ce que ça a été d'avoir des coalitions, y compris avec la gauche radicale.
Mais donc c'est parce que vous avez cette lecture-là aujourd'hui que vous êtes redevenu député pour jouer cette carte-là dans un système qui est du coup plus parlementaire, et où le président de la République et donc l'exécutif a moins de pouvoir ?
Non, je suis devenu député, c'est-à-dire que je me suis présenté devant les électeurs alors que j'étais un ancien président qui vivait une vie paisible. Je m'y suis présenté parce que il y avait un danger d'extrême droite et parce que je croyais, je crois toujours, que mon réinvestissement dans la vie parlementaire peut contribuer à rehausser la gauche de gouvernement, la gauche réformiste. Et c'est ce à quoi je vais m'attacher.
Monsieur le Président, la gauche ne serait-elle pas finalement son propre ennemi ? Entre les doutes qui la définissent et les passions qu'elle déclenche, n'est-elle pas condamnée à s'épuiser toujours avant même d'atteindre ses objectifs ?
Oui, je pense que la gauche a bien sûr des ennemis, l'extrême droite, des adversaires dans la République, la droite. Mais son principal tourment est en son sein, parce que c'est la mauvaise conscience qui est l'œil de Cain, si je puis dire, pour la gauche. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dignes de gouverner ? Est-ce que nous pouvons réussir ? Est-ce que si nous réussissons à gagner même, nous n'allons pas trahir nos propres engagements ? Et puis c'est cette division de la gauche entre ces deux familles, si je puis dire, historiques, hein, la gauche insurrectionnelle, radicale, bruyante, et une gauche plus appliquée, parfois moins attractive, parce que plus réaliste, et qui se dispute souvent la prééminence dans l'opposition, et ensuite se divise lorsque nous sommes au pouvoir. Oui, ça c'est un trait commun, je pense d'ailleurs pas simplement à la gauche française, à toutes les gauches, c'est que elle ne peut gagner qu'unie, et elle a des sensibilités différentes qui, quelquefois, s'expriment lorsque elle parvient au pouvoir.
À la fin du chapitre 9, celui qui s'appelle 1997, Lionel Jospin ou le succès empêché, vous écrivez à propos du retrait définitif de la vie politique de Jospin ceci. Le 21 avril marque le terme prématuré de la vie politique de Lionel Jospin. Son sacrifice volontaire a eu une haute valeur civique et pédagogique. En cet instant dramatique, son avertissement s'adressait à tous. Nos actes nous engagent tous. S'éparpiller ou se concentrer, s'engager ou s'éloigner, la politique n'est pas un jeu, ni la démocratie un divertissement. Lionel Jospin, par ce dernier discours public, confère une dimension morale et politique à une défaite qui n'aurait jamais dû se produire. Quel parallèle pouvons-nous tracer entre le discours du 21 avril 2002 de Jospin et le vôtre du 1er décembre 2016, quand vous avez annoncé ne pas vous représenter à l'élection présidentielle ? Était-ce aussi à la fois un sacrifice volontaire à haute valeur civique et pédagogique et une défaite qui n'aurait jamais dû se produire ?
Oui, Lionel Jospin n'aurait pas dû être écarté du second tour. Il avait été par la division, par la multiplication des candidatures, alors que son bilan était regardé comme plus que convenable. Un des meilleurs de la Ve République, peut-être le meilleur. Et il était fracassé, nous étions fracassés par l'impossibilité d'être au second tour et de nous défendre et d'être obligés de voter pour la droite contre l'extrême droite. Il aurait pu dire, je renonce à me présenter aux élections législatives qui vont suivre, mais je suis toujours dans la vie politique. Il ne l'a pas dit. Il a dit même le contraire. Il a dit qu'il fallait que les Français comprennent bien que s'ils s'étaient dispersés, ils en avaient une responsabilité. Pour ce qui me concerne, moi j'ai mis en cause, non pas les Français, ils n'avaient pas fait leur choix, j'ai mis en cause des comportements à l'intérieur même de ma famille politique qui voulait me soumettre à une primaire interne, ce qui n'avait pas de sens puisque j'étais président sortant, et à Emmanuel Macron qui, membre de mon propre gouvernement, se présentait avant même que j'ai fait mon choix à l'élection présidentielle. Et c'était un risque, si moi-même je m'obstinais, c'est-à-dire un risque d'avoir l'extrême droite ou la droite au pouvoir, ce qui ne s'est pas produit. Mais je n'ai pas renoncé pour autant à la vie politique ce jour-là. J'ai simplement fait un choix de renoncement qui a coûté à beaucoup, mais qui était aussi une façon de dire à la gauche, vous allez sans doute vivre des moments difficiles parce que vous avez perdu l'esprit de responsabilité. Et quelques années plus tard, 7 ans plus tard, eh bien peut-être la leçon est en train d'être tirée. Le Parti Socialiste va sans doute se rassembler, s'élargir, et la gauche radicale, celle qui, au-delà des frondeurs, m'avait coûté, est aujourd'hui, je pense, en voie non pas d'être une force secondaire, mais en tout cas de plus être la force principale.
Le dernier chapitre de ce livre s'appelle 2012, François Hollande ou le pouvoir disputé. Parler des autres, c'est une chose, poser un regard sur soi en est une autre. Qu'est-ce que cet exercice d'introspection vous a appris sur votre propre mandat? Et plus largement, l'exercice de l'écriture dans une perspective d'historien en tant qu'ancien chef de l'État?
Alors, dans le livre, en réalité, il y a trois écritures différentes. Il y a une écriture historique, je n'étais pas là au moment du gouvernement Valdez-Crousseau, pas davantage au moment du cartel des gauches, pas plus au moment du Front populaire, de la libération, de Mendès France, de Guy Mollet. Donc je fais œuvre d'historien à ma façon. Non pas pour raconter ce qui s'est produit, mais pour en tirer les enseignements à chaque étape. Pourquoi il y a eu victoire, pourquoi ça n'a pas duré, pourquoi il y a eu ce sentiment d'échec. Avec François Mitterrand et Lionel Jospin, c'est une deuxième écriture. Je ne suis plus un historien, je commence à être un acteur. François Mitterrand, je deviens député. Avec Lionel Jospin, je deviens premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc là, je peux raconter l'histoire comme un témoin de son déroulement. Mmh. Et donc je cite un certain nombre de scènes où j'ai été moi-même ou observateur ou acteur. Puis arrive une troisième écriture qui est la plus difficile. Puisque j'avais porté un jugement sur tous les autres, il fallait que je parvienne à porter un jugement sur mon action, sur moi-même, sur mes erreurs ou sur mes fiertés. Et donc, c'est le chapitre qui m'a, non pas coûté le plus, mais m'a pris le plus de temps.
Mais donc, que vous a-t-il appris, ce chapitre ?
Il m'a appris qu'en réalité, ce que je croyais avoir vécu comme président de la République socialiste dans une certaine période très éprouvante, puisque c'était les crises terroristes, la crise aussi financière, zone euro, etc., finalement, était assez comparable à ce qui s'était produit avant. C'est les mêmes phénomènes, c'est-à-dire l'espérance, puis ensuite la confrontation à la réalité, une forme de désillusion qui gagne, de division qui s'installe, de réformes profondes qui sont néanmoins engagées, de doutes sur la suite, et puis la fin qui ne permet pas de poursuivre.
Dans la postface rédigée en juillet dernier, vous portez un regard sur la situation politique actuelle et questionnez l'avenir du nouveau Front populaire. Alors, que représente véritablement la gauche aujourd'hui ? Et puis, entre les insoumis de Mélenchon et Panot, les socialistes d'Olivier Faure et Boris Vallaud, les écologistes de Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, les pro-européens affirmés comme Raphaël Glucksmann et Aurore Laluc, les voix dissidentes comme Ruffin et Autain, qui incarnent aujourd'hui la force politique majeure à gauche, qui incarne l'avenir de la gauche en France ?
Eh bien, ce n'est pas joué. Et ce qui va se produire dans les prochains mois va déterminer l'avenir de la gauche de gouvernement et va aussi déterminer ce que va être en réalité la suite de l'aventure et l'après Emmanuel Macron. Si la gauche réformiste, celle qui a toujours gouverné, est capable de se rassembler, de surmonter un certain nombre de querelles qui demeurent ou de concurrence de personnes, et de donner un projet au pays qui puisse lui donner confiance dans l'avenir, mais aussi espoir dans un certain nombre de changements, une victoire en 2027 est possible. Si en revanche la gauche insoumise est toujours là pour tourmenter, pour empêcher et aussi pour revendiquer, y compris la prééminence à la présidentielle, bien la droite ou l'extrême droite ont une chance de l'emporter en 2027, puisqu'on sait très bien que cette gauche insoumise, qui peut avoir son enracinement, n'est pas de nature à pouvoir rassembler dans une élection présidentielle 51% des Français.
Mais donc si en 2027, c'est la gauche insoumise qui l'emporte, cette gauche plus radicale, est-ce que l'homme de gauche que vous êtes considérera cette victoire comme une victoire ?
Oui, moi je suis un homme de gauche, mais cette hypothèse me paraît totalement improbable. Pourquoi ? Parce que pour gagner une élection présidentielle, ça vaut partout, mais ça vaut en France, il faut non seulement rassembler toute la gauche, ce qui fait à peu près 35 à 40% dans les meilleures périodes, et aller chercher après 10, 15% au-delà de la gauche. La gauche réformiste peut y parvenir. La gauche insurrectionnelle est hors de pouvoir atteindre ce résultat, parce que c'est pas possible, sauf à se transformer, sauf à devenir elle-même la gauche réformiste.
Nous allons, pour conclure cet entretien, mettre de côté votre ouvrage, Le défi de gouverner, pour parler de la gauche au Portugal. Pendant longtemps, le Portugal a représenté le dernier bastion de la gauche en Europe. Le gouvernement socialiste d'António Costa s'est maintenu au pouvoir pendant 8 ans, en partie grâce à des compromis politiques. Cela va dans votre sens, je le rappelle. En octobre 2015, le socialisme portugais accède au pouvoir en rassemblant une coalition inédite entre le Parti socialiste, le Parti communiste portugais, les Verts et le Bloc de gauche, une alliance jugée jusqu'alors impossible entre des gauches historiquement irréconciliables. Et cette coalition, donc surnommée la Jolingonce en portugais, la brinque-ballante, le bric-à-brac, le drôle d'attelage, si je devais traduire, est ce qui a permis à António Costa de gouverner le pays. Quelles leçons la gauche française, en tout cas votre gauche, et peut-être plus précisément donc le socialisme français, pourrait-elle tirer de ce modèle portugais pour dépasser ces divisions actuelles et reconquérir une place politique forte?
Je pense que ce qui s'est passé au Portugal éclaire ce qui s'est produit ou qui pourrait se produire en France. Quand la gauche a été capable de s'unir autour d'António Costa, à un moment extrêmement difficile, en 2015, au moment où il y avait encore des doutes sur la solidité de l'économie portugaise et sur des choix budgétaires qui étaient délicats. Elle a gagné et elle a gouverné. Quand ensuite, António Costa a été seul aux responsabilités, puisqu'il avait obtenu une majorité large, il a davantage souffert, parce que la critique était à l'extérieur. Puis ensuite, ses alliés l'ont abandonné et ont laissé la droite revenir. Donc, je crois que la leçon est exactement la même. C'est-à-dire que quand la gauche réformiste est forte, elle doit unir toute la gauche. Et ensuite, quand elle est au gouvernement longtemps, le risque, c'est qu'une partie de ses électeurs ou des électeurs de la gauche radicale la quitte. Avec quelles conséquences? Bon, on la voit au Portugal, c'est la droite. La droite qui ne va pas non plus très bien, qui est branque-ballante, qui a une difficulté pour faire voter, comme en France, son budget. Mais il n'empêche, quand la gauche n'est pas au rendez-vous, et quand elle se divise, eh bien c'est la droite.
Le socialiste António Costa, on en parlait, qui était donc à la tête du Portugal jusqu'en avril dernier, désormais le président du Conseil de l'Europe. D'abord, que vous inspire son parcours? Et ensuite, selon vous, comment cette nomination peut contribuer à renforcer l'influence socialiste sur la scène européenne?
Alors, j'ai beaucoup d'amitié pour António Costa, qui a été un grand Premier ministre, bon, qui s'est effacé à un moment, alors qu'il était injustement visé par une enquête, et qui s'est mis donc de côté, et qui avait suffisamment d'autorité et susciter suffisamment de respect de la part de ses partenaires au sein du Conseil européen pour être choisi comme président du Conseil européen. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? D'abord, c'était important qu'il y ait un pays d'Europe du Sud qui puisse, c'est la première fois depuis qu'il existe un président du Conseil européen, puisse donner à l'Europe ce caractère. De regarder bien sûr ce qui se passe à l'Est en ce moment avec la guerre en Ukraine, et de regarder ce qui se passe au Sud avec ce qui se produit en Israël, Palestine, Liban, Proche-Orient, mais aussi ce qui se passe au Maghreb. Et aussi l'immigration, qui est un problème qui touche peut-être plus l'Europe du Sud qu'une autre partie de l'Europe. Donc je pense que António donnera cet éclairage. Ensuite, est-ce que ça va être une évolution politique? Non, on ne peut pas demander au président du Conseil européen de changer l'orientation de l'Europe. Il anime le débat, il donne des orientations, il peut susciter des initiatives. Enfin, c'est le Parlement européen qui est déterminant, et puis la composition du Conseil européen. Or, la composition du Conseil européen, aujourd'hui, est très majoritairement à droite. Donc, il va falloir que António utilise son talent pour essayer d'éviter... Éviter quoi? Éviter le repli. On voit bien le nationalisme qui revient, le souverainisme qui s'installe, les frontières intérieures qui se rétablissent, et le risque aussi d'une confrontation commerciale avec les États-Unis. Bon courage, António Costa.
Le 25 avril dernier, le Portugal a fêté les 50 ans de la révolution des œillets, un événement fondamental qui a marqué la chute de la plus longue dictature d'Europe et l'avènement démocratique. Or, cet anniversaire coïncide avec l'élection au Parlement portugais de 50 députés d'extrême droite, les députés du parti Chega, dirigé par André Ventura. Quel regard portez-vous sur cette étrange ironie? 50 ans après avoir défait le fascisme, 50 ans après l'implantation de la République, le Portugal se retrouve avec 50 députés d'extrême droite dans son Parlement.
Oui, et la France se retrouve avec 150 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale, alors que la France, c'est le pays des droits de l'homme que... Et il y a là aussi 50 ans, 1974, c'était l'avènement d'une gauche capable de faire près de 50% avec François Mitterrand. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Que les extrêmes droites progressent partout, y compris dans des pays qui avaient connu le fascisme, qui avaient connu la dictature. Parce que c'est ça qui est le plus troublant. Comment en Grèce, en Espagne... En Italie et au Portugal, il peut y avoir encore une extrême droite qui, à visage découvert, s'avance. Bah parce qu'il y a un mouvement général aujourd'hui de populisme, de souverainisme et de repli, dont l'immigration, même au Portugal, est l'une de ses premiers sujets. Et où la peur de l'autre s'est installée. La crainte aussi d'une mondialisation sans limite, et donc d'une perte d'identité. C'est toujours les mêmes facteurs sur les mêmes terreaux qui produisent l'extrême droite. Alors qu'est-ce qui est en cause? C'est que les démocrates qui, en 1974, pendant la révolution des œillets, saluaient la révolution, sont-ils encore mobilisés? Sont-ils encore aussi puissants à faire entendre leur voix, aussi enthousiastes sur ce qu'est la démocratie? Je crois que s'il y a une extrême droite, c'est aussi parce qu'il y a une démobilisation de ce qu'étaient les forces de progrès, comme on disait. Alors, ça suffit pas. Il faudra aussi qu'on réponde à l'angoisse, parce que c'est un vote d'angoisse, ce qui se produit souvent des catégories qui sont les plus populaires, qui sont les plus exposées à tous les risques, c'est-à-dire les risques économiques, les risques sociaux, les risques aussi de logement. Parce que qu'est-ce qui se passe au Portugal? C'est un peu ce qui se passe partout. C'est-à-dire que on exclut une partie de la population qui... Certes, le Portugal accueille de nombreux résidents, mais au détriment aussi de ceux qui vivaient jusque-là et n'avaient pas les loyers à payer ou ne pouvaient accéder à la propriété. Ces phénomènes se passent partout, donc à nous de les conjurer.
Il y a un thème qui nourrit particulièrement l'extrême droite au Portugal également, c'est le thème de la corruption, moins en France.
Oui, mais les extrêmes droites sont généralement corrompues. Là, il y a un procès qui s'ouvre à Paris... sur les détournements des indemnités ou des salaires des assistants parlementaires du Parlement européen au bénéfice du parti d'extrême droite. Mais ça ne tue pas les partis d'extrême droite. Ils vivent avec le rejet de la politique. Eux-mêmes sont prêts à toutes les manipulations, mais ne sont jamais victimes de leur turpitude. C'est ainsi. Finalement, c'est peut-être un honneur. La corruption, la malhonnêteté, c'est un péché mortel pour les démocrates. Ben, faut en être fier.
On évoquait la révolution des œillets. Vous souvenez-vous de votre jeudi 25 avril 1974? Vous aviez 19 ans à l'époque.
J'étais parti au Portugal. Et j'étais allé en voir comment ça se passait. Et j'étais allé dans un hôtel de l'Algarve. Qui était en autogestion. C'était rare quand même des hôtels en autogestion. Donc on était un certain nombre d'étudiants qui étaient venus pour exprimer notre soutien à la révolution des œillets. Et on était avec beaucoup d'autres là, dans cet hôtel qui était ouvert, payant quand même, hein, mais qui nous donnait l'idée que la démocratie, non seulement allait s'établir au Portugal, mais que c'était même d'autres formes de gestion de l'économie. De ce point de vue, ça ne s'est pas poursuivi.
Mais vous étiez pour ?
Oh ben bien sûr, j'étais pour. Si j'avais fait le voyage, c'était pour dire combien j'appréciais cette.
Je veux dire, ces nouvelles formes politiques.
Ces nouvelles formes politiques, oui, bien sûr. Cette idée qu'on allait organiser l'économie différemment, que les salariés allaient eux-mêmes pouvoir gérer leur propre entreprise. Après, on sait que ça a quand même des limites. Puis après, la révolution des œillets, il y a eu des batailles aussi à l'intérieur de la gauche. sur l'imprimerie, sur les journaux. Donc on a défendu à ce moment-là la démocratie en tant que telle, en se disant, c'est pas parce que la démocratie s'est installée sur le plan politique qu'au nom d'une gauche radicale, on peut mettre en cause les libertés.
Et c'est un moment historique qui voit s'opposer les deux gauches dont vous parlez dans ce livre, la gauche du Parti communiste portugais avec Álvaro Cunhal et la gauche du Parti socialiste avec Mário Soares.
Oui, et ce conflit, il s'était importé en France. François Mitterrand soutenait Mário Soares et les communistes français, pas seulement les communistes français, une partie de on dirait, de la gauche extrême, soutenait Cunhal ou avait soutenu Otello de Carvalho à un moment, etc. Donc il y avait toujours l'idée des deux gauches. C'est une qui voulait aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, quitte à prendre ses distances par rapport à la démocratie ou aux institutions, et une autre gauche qui défendait les libertés. Et cette bataille qui s'est jouée au Portugal a eu des effets très importants en France, parce que ça a rehaussé le prestige du Parti socialiste et ça a affaibli le Parti communiste français.
François Hollande, votre nouveau livre s'appelle « Le défi de gouverner, la gauche et le pouvoir de l'affaire Dreyfus jusqu'à nos jours ». Il est publié aux éditions Perrin. Vous y revenez sur l'œuvre politique, sociale et sociétale que la gauche a su accomplir quand elle a eu le courage de gouverner et de jouer le jeu du pouvoir. C'est la première fois qu'un ancien chef de l'État écrit l'histoire de sa famille politique. Voilà donc le rendu, « Le défi de gouverner » aux éditions Perrin. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la
République. Merci à vous.